Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour notre numéro 48 des Teachers. Bonsoir les Seb.
Salut.
Bonsoir.
Donc une émission à 3 ce soir. On veille de vacances pour moi et en vacances pour Sébastien,
Eh oui.
je crois. Alors aujourd'hui, je fais un petit test. J'ai changé d'opérateur, hein, s'il y a un petit problème de débit, ben vous me direz, hein, en tout cas, parce que voilà, je suis pas
Et
très sûr
normalement,
de, je
ça
suis pas
devrait aller
très
mieux.
sûr. Voilà. Comment?
Ouais, Hangout. Maintenant, ça devrait aller mieux parce que Hangout passe en peer-to-peer normalement.
Ouais.
Donc, ça devrait faire, on devrait avoir une meilleure qualité normalement.
Bah, je sais pas, l'image devait être en HD, elle passe pas en HD moi, donc je sais pas.
Voilà.
Bon, à voir.
Par contre, Jeff, on a hors antenne qui reste affiché.
Ah,
Alors, pas chez
non.
moi.
Non, moi je l'ai aussi. Non, moi c'est bon.
Ok, bon, alors c'est moi.
Voilà, je ne suis pas allé voir le chat non plus, pour voir s'il y a des gens sur le chat. En tout cas, si vous voulez vous connecter ce soir sur le chat, eteachers.fr/live, ça ne change pas. Donc vous pouvez aller poser des questions comme vous voulez. Avant de... Un petit... Bon, pas trop de retour, mais j'aimerais juste rappeler le sondage qui stagne un peu. On a eu pas mal de réponses au début, ça stagne un peu. N'hésitez pas, vous avez le lien sur le site. Vous cliquez sur le sondage et ça vous prend allez 2-3 minutes, pas plus. Hein. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ceux qui nous écoutent, quoi. Voilà, ce soir, on va parler pas mal d'outils. On a un outil chacun à présenter. Une petite partie innovation, une petite partie actualité ce soir et quelques trucs pour les vacances. Hein, je vois que vous avez mis pour parler d'autres choses. Voilà. Qui c'est qui veut attaquer ce, qui veut attaquer?
Allez, moi je vais commencer
Allez, dans l'ordre. Allez.
avec un site français qui s'appelle classenumérique.fr. Donc c'est assez modeste comme titre. Alors c'est pas mal. Je passe tout de suite en partage pour ceux qui sont en vidéo. Donc c'est une plateforme éducative. Qui normalement, alors là vous me direz parce que c'est pas moi l'institut, hein, qui normalement suit les programmes de l'éducation nationale. Donc si on regarde un petit peu, donc là on est sur mon tableau de bord, j'ai créé un compte gratuit et ce qu'on peut faire, donc il y a déjà plein de contenus, c'est des exercices classés par discipline, français, mathématiques, anglais, histoire, géographie, etc. Par niveau, donc on va de la maternelle à la sixième, et puis après vous pouvez ajouter votre propre exercice. Le tableau de bord, il est assez simple. Il y a d'abord la gestion des élèves. Donc là, ben, c'est tout simplement la possibilité pour vous de créer et de gérer ben, vos élèves. Vous voyez que moi, je me suis créé un compte élève pour tester de l'autre côté. Et puis, donc, il y a un petit mot de passe, trois chiffres facile à utiliser. Alors, c'est là où ça commence un petit peu à être un peu moins bien, c'est au niveau de la navigation. Donc on revient toujours à l'accueil, voilà, comme ça. Et après on peut créer donc bah, des exercices, on retrouve ici un petit peu, on suit les résultats, et puis on peut créer des plans de travail, des parcours. Alors normalement, ce qui est annoncé sur le site sur l'accueil de cette plateforme, c'est qu'on peut donc créer des plans de travail pour différents groupes, etc. Donc là j'en ai créé deux comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc pour ajouter un plan de travail, ça c'est assez simple. Il y a ce bouton bleu qui est marqué ajouter un plan de travail. Donc on clique dessus, on lui donne un nom. Et après on va ajouter des exercices. Et c'est là où ça commence à se compliquer parce que vous voyez que quand je veux ajouter un exercice, bah, soit je connais le nom de l'exercice, soit je connais son numéro. Donc je ne peux pas directement commencer à naviguer dans les exercices dans le plan de travail. Il faut que j'aille voir ma liste d'exercices, que je retienne le numéro, que je vienne retaper le numéro ici. Donc là, il y a une petite amélioration à faire au niveau de la navigation, parce que sinon c'est pas très pratique. Et donc quand j'ajoute un exercice ou un plan de travail comme ça, alors là, bon, le problème c'est que j'ai créé qu'un seul profil d'élève qui était le mien. Mais si on va sur mon profil élève, en fait, eh ben j'ai rien attribué hein, à donc mon élève fictif, mais d'office il s'est retrouvé avec les deux plans de travail à faire. Donc j'ai pas encore vu comment on pouvait attribuer. Alors peut-être que ça se fait après si on crée plusieurs comptes élèves. Les gens qui voudront essayer pourront me dire si ça marche comme ça. Mais là, avec un compte élève de l'autre côté, j'ai pas pu dire bah tiens, toi tu feras ça et puis pas celui-là. Donc c'était un peu bizarre. Faut que je regarde si en créant plusieurs comptes ce que ça donne. J'ai pas eu plus le temps que ça. Puis il faut dire aussi que pas trop de domaine hein, le primaire. Mm-hmm. Donc j'ai pas non plus eu l'occasion de tester vraiment avec des élèves, mais je comptais le tester avec mes filles parce que ça peut être pas mal. Comme elles sont scolarisées à l'étranger, ben d'avoir un accès à des exercices comme ça français. Alors bon, c'est pas des leçons, c'est juste des exercices. C'est réparti par niveau, par discipline. Donc si on discipline et sous-discipline, hein. Là on voit par exemple grammaire. Et quand on clique comme ça, alors là c'est un autre problème un petit peu de recherche avec le menu ici en haut. Si je fais discipline, j'ai pas un sous-critère de niveau. Ouais. Donc là, j'ai des exercices de CM1, CM2, CE2, etc. Je peux l'avoir ici. Tiens là, il monte même jusqu'à 5e. Et ici, je peux avoir un peu ce que je veux.
Bon, non, c'est une plateforme qui est un peu jeune encore peut-être. Mais...
Oui, elle est un petit peu jeune, mais j'aime bien le côté collaboratif et puis le fait que les profs peuvent le fait que les profs puissent ajouter leurs exercices. Donc ça c'est pas mal. Et puis je trouvais le design assez simple, même s'il y a encore quelques petits problèmes d'ergonomie. Je trouve que surtout du côté prof d'ailleurs, hein, pas tellement du côté élève, je trouve que c'est bien lancé. C'est sobre, c'est joli, c'est réactif, ça charge assez vite. Donc ça me semble pas mal.
C'est l'exercice style quiz, style.
Ah oui, c'est vrai. J'ai pas montré ouais. Quand on non il y a plein de trucs en fait, ça c'était pas mal, j'ai complètement oublié, mais quand on veut ajouter un exercice, eh bien on peut avoir cliquer image, créer des flashcards, créer des légendes, des mots à placer, il y a plein de donc des textes à trous, des questions à choix multiples, des mots à trouver, etc. Donc déjà tu vois une banque de 8 types d'exercices, ça fait quoi faire,
intéressant, hein. D'accord, et c'est ouvert à n'importe quel enseignant facilement.
Ouais. Alors après, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un comité de relecture derrière, mais je pense que tu peux noter les exercices s'ils t'ont plu ou des choses comme ça, tu vois, pour essayer de retrouver. Mais non, c'est sympa. Bah non, moi aussi j'ai découvert il y a pas très longtemps et je me suis dit c'est intéressant.
Tu sais qui c'est derrière ça, non, tu sais pas. T'as pas
fouillé. Non, aucune idée. J'ai pas fouillé plus que ça, non.
D'accord.
Au niveau du coût, tu as une idée?
Bah c'est gratuit, hein.
Entièrement gratuit, il n'y a pas une option payante, ce genre de truc?
Non, j'ai rien vu de tout ça. Il n'y a pas de truc ici de prix, j'ai pas vu de limitation au nombre d'élèves, de limitation au nombre de parcours et tout ça. J'ai rien vu de.
Je serais curieux de voir qui c'est qui est d'ailleurs le. Bien ça, parce qu'il y a quand même du codage et après il y a toute la partie collaborative en fait, hein, qui c'est ça, hein, qui le gros morceau.
Voilà, c'est ça, il y a la partie collaborative. Hein, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc toi, tu peux lancer tes élèves sur un espace de travail normalement, mais même si j'ai pas encore trop vu ça, et puis tu peux suivre leur progression, voilà.
Et tu disais au primaire, j'ai vu le collège aussi, hein, non?
Ouais, c'est un peu bizarre ça aussi, parce que quand tu regardes ici par niveau, ça monte jusqu'à la 6e, et quand tu regardes ici sur le côté, ça va jusqu'à la 5e. Donc ouais. Bon, tu vois, il y a encore des petits trucs à régler, mais ouais, voilà. Bon, alors il n'y a pas encore beaucoup d'exercices, ça commence à venir.
Ouais, mais quand je vois le type d'exercice que tu peux créer dans n'importe quel niveau, j'ai envie de dire, tu peux utiliser,
ma rigueur. Bah, oui. Ouais. Puis, voilà, c'est ça. Et c'est assez sympa quoi, de pouvoir avoir une plateforme pour des exercices.
Moi, j'ai une question, est-ce que tu es forcément obligé de créer des comptes élèves? Est-ce que tu peux partager tes exercices? Tu n'as pas été jusque-là non plus?
La seule façon que j'ai vu de partager, c'était d'avoir des élèves. Donc, tu es obligé de leur créer un compte. D'accord. J'ai pas vu de lien.
T'as pas un lien pour, comme ça. D'accord.
Non, j'ai pas vu ça.
Non, ça marche. Très intéressant, en tout cas. Ouais.
Ouais, c'était sympa.
Ok. Et c'est vraiment au format site web, il n'y a pas une application derrière en plus?
Non, c'est vraiment site web. Ouais. J'ai pas testé d'ailleurs sur une tablette en accédant au site ce que ça pouvait donner. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir le rendu via un navigateur, mais un navigateur mobile, hein, que ce soit Android ou Windows ou iOS. Voir un peu si c'est faisable ou pas, parce que des fois ça a tendance à poser problème. Hein. Je pense par exemple à Edmodo, l'application mobile, elle ne te permet pas de faire les exercices interactifs.
D'accord.
Ok, très bien. Très intéressant à creuser, voilà. En tout cas. Ouais.
S'il y a des instits qui veulent tester, nous faire un petit retour, ce serait sympa.
Bon, d'accord, allez, je me dévoue.
Très bien, ça. Il t'a lancé une perche. Mais... ok, et j'enchaîne. Allez,
vas-y.
C'est dans l'heure. Donc, tu as parlé d'Edmodo, justement, je vais parler de Edpuzzle. Donc, Edpuzzle.com, je vais essayer de partager mon écran. Alors, je cherchais depuis un petit moment aussi un outil qui permet de créer des questionnaires à partir d'une vidéo. C'est bon, vous l'avez là ? Ouais. Non.
Non.
Vous n'avez pas mon écran.
C'est là pour l'instant, on a un peu une mosaïque. Ouais, ça y est, on l'a là. C'est bon.
C'est bon ? Ouais. Je pense que Free, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais. ça s'est dit. Donc, Edpuzzle, c'est un questionnaire, c'est rendre un peu plus interactif une lecture de vidéo. On va pouvoir mettre à partir d'une vidéo des petites questions à un moment voulu, des trucs interactifs style un lien internet, une image qui arrive à un tel moment, un commentaire audio. Voilà, on peut vraiment rendre interactif toute cette vidéo. Alors, et puis c'est assez simple. Donc c'est gratuit, première chose. Deuxième chose, on va créer donc un compte prof. Et on peut créer des comptes élèves aussi, pareil. Donc, des comptes élèves que le prof va créer. Donc, il n'impose pas une connexion ou un mail pour les élèves. Donc, c'est très bien, ça, pour des jeunes élèves. Ou alors, carrément, on n'a pas besoin de compte élève. On peut partager à partir d'un lien directement la vidéo. Moi, c'est ce que je fais dans ce cas-là. Pour créer une vidéo, c'est assez simple. On a dans Edpuzzle, on a ce qu'on a... désolé pour mon accent, My Content. Voilà, My Content, où on va créer et on va créer une nouvelle vidéo. Et cette vidéo peut être soit uploadée directement de notre ordinateur, ou soit on peut aller chercher une vidéo YouTube. Alors il y en a plein, il y a toute une liste, hein, d'une vidéo de TED Talk par exemple, et de National Geographic. Alors c'est beaucoup. Voilà, il y a même des choses que je connais un peu moins. Il y a Vimeo par exemple aussi dedans, donc il y a pas mal de liens. Si je prends l'exemple d'une vidéo YouTube, on va cliquer sur YouTube et on va aller chercher une vidéo YouTube. Soit on a directement le lien de la vidéo YouTube, soit alors on va aller faire directement le moteur de recherche de la vidéo YouTube. Alors on va en prendre, je vais prendre la première qui me vient ici pour l'exemple. À partir de cette vidéo qu'on va uploader ou soit à partir d'un autre service, on va pouvoir déjà faire un genre de petit montage assez simple, hein, de début fin, tout simplement, en faisant glisser un petit curseur de la partie où on veut. Hein. Voilà, moi, je veux 20 secondes de vidéo, on a 20 secondes de vidéo. Là, c'est vraiment le succès pour le montage, on va pas faire du grand cut, hein, c'est vraiment pour un début, une fin. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir mettre, si on veut, faire une audio track. Je pense une audio track, donc ça va permettre de faire une voix off par-dessus. Et toute la vidéo, style, quand on va pouvoir faire du... la classe inversée, par exemple, ou qu'on peut faire des petites capsules vidéo. Hein, on peut simplement avec un micro, on a une petite icône micro et on va pouvoir s'enregistrer pendant la lecture de la vidéo. Ça peut être intéressant aussi. On a une autre chose qui s'appelle Audio Notes. Alors Audio Notes, là, c'est carrément à un moment donné où on va vraiment choisir l'élément au moment que l'on veut. La vidéo va s'arrêter et on va avoir un petit commentaire audio sur la vidéo. On clique pareil sur le petit, on s'enregistre. Ici, stop. Et on va pouvoir, à ce moment-là, la vidéo va s'arrêter et va pouvoir lire le commentaire audio. Voilà. Alors, j'ai un petit... Vraiment le... Voilà. Ah, voilà, je ne sais pas si vous ne l'avez pas entendu, non ?
Non, on n'a pas entendu, mais on ne voit pas non plus trop à l'écran.
C'est vrai ? ça bug ?
Oui, je pensais que c'était moi, mais non, ça bug.
Bon, je vais vraiment plus le faire.
L'explication est suffisamment claire.
Ouais,
en tout cas.
Bon, je vais faire comme audio.
Tu rajoutes des actions, c'est ça, à chaque moment.
Donc, à chaque moment. Là, dans cette partie-là, oui, c'est vraiment. L'action, c'est audio. C'est un petit commentaire audio. À partir d'un moment, on veut arrêter la vidéo, on veut mettre un petit commentaire audio. On choisit à quel moment on veut ce commentaire audio. La vidéo s'arrête. Et on a le petit commentaire audio qu'on a enregistré. On continue. Ensuite, on a un petit quiz, ce qui peut être intéressant aussi. Là, on va choisir au moment que l'on souhaite de la vidéo. Pareil, on va choisir ici au moment une petite question. Alors, les petites questions sont un peu simplistes, soit une question ouverte, d'accord, une simple question, une simple réponse, soit un petit quiz assez simple avec à choix multiple, une réponse ou plusieurs réponses. Voilà, on a vraiment, ou un petit commentaire. On peut aussi déposer simplement un commentaire. Donc, ça va arrêter la vidéo et ça rend un peu plus interactif la vidéo. Une fois qu'on a fini tout ça, donc je rappelle, soit une voix off dessus, soit un commentaire audio à tel moment, soit un petit quiz, un petit commentaire à tel moment. Une fois que c'est fini, on va faire simplement finish et on va pouvoir partager cette vidéo, soit par lien, soit directement, si on a des comptes élèves, on va pouvoir lancer à tout le monde, à chaque élève, quelle est la vidéo. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, c'est clair. De mémoire, ils étaient aussi en partenariat avec Edmodo.
Ouais,
et
tout à fait.
Tu pouvais balancer donc tes vidéos directement. Enfin non, c'est pas ça. C'est si tu avais des élèves sur Edmodo,
voilà,
ils pouvaient loguer sur Edpuzzle avec leurs identifiants Edmodo. Hein.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Bon, c'est toujours comme ça.
Je suis pas utilisateur d'Edmodo, alors. Mais je trouve vraiment bien fait, simple. Quand on veut rendre, moi, ça m'arrive, de faire regarder une petite vidéo aux élèves. Et ben, je trouve que c'est bien. Ça rend une petite question, ça rend un peu plus actif sur la vidéo. Voilà. Je trouve ça plutôt intéressant là-dessus.
Ouais. Ouais. Et juste un petit truc, c'est quand tu lances, je regarde la vidéo, ça s'arrête. Il y a un quiz. Quand j'ai répondu au quiz, la lecture se relance automatiquement,
ouais,
c'est
automatiquement,
ça ?
Automatiquement, tout à fait. Ouais. Tout à fait là-dessus. Ouais. Je voulais faire voir un exemple, mais ça rame un peu aujourd'hui. Voilà. Ah, on a perdu une Seb, non ? C'est ça ?
Ah, ouais, apparemment, il a été. Il a été éjecté.
Bon. On va passer à la suite. Ben, attends.
Ouais.
Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, on passe
alors,
à la suite,
attends,
et puis quand il reviendra, on demandera de.
Donc, on va passer à la partie innovation, expérimentation. Tu avais quelque chose, je crois, Seb.
Ouais, alors. Voilà Seb qui est de retour.
Oui, je passe mon temps à me connecter, à me déconnecter. C'est très rigolo, là, ce soir.
Donc, finalement, la Corse ne marche pas si bien que ça.
Voilà. je savais qu'on changeait de pays parfois, mais bon. Donc, c'est à moi, c'est ça?
C'était à toi, oui.
C'est à toi, tu voulais parler de Document
5. Yeah. En fait, depuis que j'ai un iPad, en fait, je me sers de Document 5, et qui est un bon gestionnaire de fichiers. Bon, j'aime bien, parce que ça permet de se connecter à tous ces comptes du cloud. Et ça, c'était un aspect que j'aimais bien sous Android. J'avais un bon gestionnaire de fichiers aussi. Et sur iPad, j'avais celui-là dont j'avais bénéficié lorsqu'il était gratuit, parce que il est payant normalement, mais il est souvent gratuit pour une durée limitée. Alors, Documents, pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que je suis en pleine lecture de nos nouveaux programmes de l'école. Et j'ai acquis, là aussi, de façon gratuite, un module qui vient complètement s'implémenter dans Document 5, qui s'appelle PDF Expert. Et je l'ai un peu ouvert par inadvertance, et je suis très très content, parce que c'est sacrément pratique pour annoter son PDF. Alors moi, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, pour annoter les PDF quand vous les lisez.
Plein de trucs. Je regarde parce que c'est sur mon téléphone que j'annote, mais donc sur Android, j'aime bien utiliser Easy PDF, la version pro, qui permet de mettre des commentaires audio, du surlignage, tout ça, de signer, enfin bon, bref, il y a tout un tas d'options possibles. C'est assez lourd, assez complexe. Et sinon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais le Play Livre de Google aussi.
Ouais. Bon, en fait, sur iPad, tu peux tomber avec, tu peux faire des trucs avec iBooks, forcément, mais. Je passe la parole à Guillaume, mais ensuite je vous dis pourquoi je suis bien content de celui-là.
Pardon ?
Jeff, pardon.
Ah, mais celui-ci.
Ça me dire, j'en ai invité un qui était pas là.
Pour annoter, alors ouais, je suis un peu particulier. Je vais parler de Linux. J'ai un PC sur Linux et j'annote toujours avec Evins. Donc, qui est, tu vois. Donc, je trouve hyper pratique, hyper simple. Pour rentrer des images, par exemple, je signe des documents comme ça, c'est assez pratique. Ouais.
Voilà. Ouais. Bah, en fait, moi, j'utilisais Notability parfois. Enfin, bon, j'en avais plusieurs. Et là, par contre, je pense que je vais m'orienter avec ce module de Documents parce qu'il est juste, il est directement déclenché. C'est devenu un module de mon gestionnaire de fichiers. En fait, Documents, ça me fait un peu penser, alors je sais pas si ça va évoquer quelque chose à tout le monde, mais dans les années 80, on avait le dessin animé Transformers. Et dans Transformers, vous aviez des robots qui se combinaient pour en faire un beaucoup plus gros. Documents, c'est un peu la même chose avec ces programmes-là. C'est-à-dire, ce sont des programmes qui s'installent, qui peuvent fonctionner indépendamment sur votre iPad. Mais une fois qu'ils sont installés, ils complètent complètement. Ils deviennent des compléments tout à fait automatiques de votre gestionnaire de fichiers. Alors, j'en ai un pour l'impression. Donc, j'ai celui-là pour annoter. Alors, il y a toutes les fonctions classiques, hein, mettre des post-it dans le document, souligner, surligner, dessiner, etc. Et j'en ai aussi un autre de module qui lui permet de faire de scanner ces documents. Le côté bien pratique, c'est que je peux ouvrir mon fichier qui est dans mon drive, depuis document, l'annoter toujours dans document, imprimer la page que je viens d'annoter seulement et l'envoyer soit dans un PDF, soit sous forme d'un nouveau PDF, soit sur une imprimante physique. Tout ça juste à partir d'une seule application sans avoir à zapper d'une application à l'autre. Donc moi, c'est ça que j'aime bien.
D'accord, donc c'est tout intégré, d'accord, à document.
Voilà, tout s'intègre. Tu peux avoir les modules séparés qui fonctionnent, mais tout s'intègre. Alors attention, tous les modules sont payants. Ah. Mais si, moi, j'en ai payé aucun.
Parce que là, je vois actuellement document 5, il est gratuit, c'est ça, a priori, là.
Ouais, de toute façon, il est gratuit un nombre de fois par an et pendant un long moment. Donc,
Et même les modules.
Les modules.
D'accord. Ok.
Ah mince, il vient de se déconnecter, mais je me demandais si une fois que les documents étaient annotés, tout ça, si tu étais obligé de les retrouver sur ton iPad ou si tu pouvais les retrouver ailleurs, sur d'autres plateformes, parce que ça, moi, c'est ma grande marotte du moment, c'est la convergence, quoi, de te retrouver partout.
Je pense que j'ai compris, document 5 gérait pas mal de services de cloud.
Ouais,
donc, ça devrait le faire.
Avec les annotations.
Voilà.
J'ai des aventures comme ça. PDF ou des fois tu vois je les remplis, ils sont remplis, tu les sauvegardes et au moment où tu imprimes ou tu l'envoies, et ben la personne ouvre la pièce jointe ou et puis il n'y a rien de rempli ou l'impression, il n'y a rien de rempli. C'est comme s'il y avait c'était simplement une surcouche mais qui n'était pas accessible à tous. Quoi. C'est un peu,
on commence à avoir de plus en plus de quand même de PDF, pré-remplis ou des zones actives, moi je trouve. Ouais. Non, même dans l'administration, quoi. Ça commence à venir, c'est bien.
Oui, surtout là par exemple, si tu veux, moi ce qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que là où je travaille, les collègues m'ont dit: ah, tu les as imprimés les nouveaux programmes? J'ai dit: tu sais combien il y a de pages? Enfin non, bon, il y en a plus de 80 pages. Enfin, ah, oh, peut-être pas tout imprimé. Moi j'imprime rien du tout.
Ben oui.
Ouais, et donc je demandais les versions à noter. De ces documents, tu les retrouves après annotés donc dans tes différents services de cloud selon là où tu les enregistres, hein, c'est ça?
Non, en fait, tu les retrouves, elles restent annotées dans documents. Si tu veux les retrouver, il faut quand même les transférer.
D'accord, mais tu peux les transférer avec les annotations, quoi.
Oui, tout à fait. À partir du moment où tu as annoté, etc., tu peux dessiner, etc., tu peux refaire un nouveau document de PDF.
Et tu peux l'envoyer
avec les annotations directement.
Tu peux mettre dans un Dropbox ou dans un Drive, quoi. C'est ça?
Exactement. D'accord. Qui sont directement accessibles puisqu'ils te gèrent tout ça.
Ça, c'est pratique. Mm. Ok, très bien. On passe à la partie innovation.
Ouais, la partie innovation. Et ouais, moi je voulais en parler avec un podcast qui s'appelle Lifestyle, un podcast consacré à l'univers Windows, donc Windows 10, Windows Phone, etc. C'est un podcast bimensuel. Ben en fait, alors c'est un podcast bimensuel avec où ils sont cinq animateurs et Cassim, Guillaume, Christophe, oui. etc. Okay. J'ai pas tous les noms en tête, mais il est donc c'est vraiment un podcast sympa parce qu'ils ont des dossiers assez poussés, ils ont des invités assez prestigieux des fois.
Cassim, c'est pas un des invités du Rendez-vous Tech des fois. Temps en temps,
non, si, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Ça, hein, exactement. Okay. Et donc c'est vraiment sympa d'écouter ces épisodes, mais surtout dans le dernier numéro, il y a Guillaume Hirslow, que vous pouvez retrouver sur Twitter @Hirslow, qui est aussi blogueur pour un blog qui s'appelle Bande École, où il raconte un petit peu plein d'expériences qu'il fait. Il est instituteur en classe Ulysse. Donc avec des élèves déficients. Et en fait, dans le dernier numéro, donc selon la publication, c'est le numéro 80 de Lifetile, eh bien il parle pendant une bonne demi-heure un petit peu de comment il utilise les outils Microsoft Education pour son école et pour sa classe. Et je pense que ça va intéresser Seb, parce que c'est un peu la même bidouille que ce que tu faisais avec Evernote, mais cette fois avec OneNote de Microsoft. Et c'est en fait, il y a tout un univers éducation de Microsoft qui est pas tellement mis en avant finalement. Il faut connaître un petit peu, mais donc il y a Office 365 for Education, donc pour l'éducation, hein, qui est la version gratuite de Office 365. Alors il vous explique tout ça dans le podcast, mais en gros pour s'inscrire, il faut se créer un compte et puis avoir un nom de domaine, et en fait tout est gratuit à partir du moment où ils reconnaissent que tu agis bien au nom d'une école, si tu veux. Et donc dans son OneNote, il a trois espaces. Il y a un espace prof, il y a un espace bac à sable collaboratif et un espace où il communique individuellement avec ses élèves. Et donc il explique tout ce qu'il fait avec son matériel et puis donc avec la version Office pour l'éducation. Et c'est une version Office en ligne, hein, c'est pas la version Office pour les étudiants qui est un peu moins cher, un peu allégé, hein, c'est pas ça. Et ce qui est sympa dans son expérience, c'est qu'elle demande pas finalement beaucoup de matériel. Lui, il a un ordinateur au fond de sa classe, il a un vidéoprojecteur et il a une Surface 3 qui est sa tablette à lui, donc la tablette de Microsoft, mais tu vois, de la génération d'avant. Et c'est très intéressant de l'écouter parler de ça et de voir comment, malgré les restrictions budgétaires et ça, on peut quand même mettre des dispositifs en place et faire des expériences intéressantes avec un petit outil comme OneNote, qui est un peu sous-estimé d'ailleurs, mais qui permet de faire des notes audio, de dessiner, d'écrire, etc. Donc c'est assez sympa. Donc je vous recommande Lifetile, le podcast en général, mais pour ceux qui s'intéressent à l'éducation, intéressez-vous à l'épisode 80.
Très bien, j'irai écouter ça, ouais. D'accord.
Exactement.
Ça
vous... non, en plus, je...
Ah, mince.
Ah ben, décidément. L'accord, c'est pas ça. Ouais, en plus, on est en plein dans l'actualité avec le partenariat qu'il y a eu en France...
Ils en parlent aussi.
Ah, ils en parlent aussi ? D'accord. Ah, mais j'irai écouter ça. J'irai écouter ça. Mm-hmm. Ok. Bon, j'enchaîne. Moi, j'ai une petite chose, un petit article que je voulais relayer, que je trouvais un peu intéressant sur un site que je parle souvent. Hein, le site qui s'appelle Technopédagogie en général et iPadry en particulier, qui est le site de. Je ne sais même pas son prénom, c'est J le peintre. Je ne sais pas son prénom, J. Que j'ai essayé de contacter en tout cas pour inviter, mais pour l'instant j'ai pas de réponse, on verra. Il a fait un article où il avait parlé une question justement des obstacles au changement vus par les profs, où il avait fait une formation de profs qui est des profs associés au réseau français, tu sais, à EFE là en Amérique du Nord justement, hein. Donc voilà, il leur avait demandé de demander les obstacles qu'il y avait à l'intégration du numérique dans leur établissement. Alors je vais essayer Il a fait ça dans cet article, alors sous forme de, vous verrez, je mettrai dans les notes de l'émission, vous aurez sous forme de nuages de mots les réponses. Mmh. Bon, on va commenter quelques-unes que je trouve un peu intéressantes. Alors, la première chose qui est apparue sur l'épreuve, c'est le temps. Le temps qu'il faut pour intégrer et connaître les outils numériques. Il disait que c'était très chronophage, hein. J'ai envie de dire oui, c'est vrai, hein. C'est
très chronophage. Tous discutent.
Mais de connaître déjà. Connaître, il faut quand même faire un outil de veille. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous, dans l'émission en tout cas. Hein. Il faut quand même suivre pas mal de sites. Donc, c'était vraiment pour eux, c'était vraiment la grosse partie. Après, c'était la partie formation. Hein, c'était vraiment plus que jamais, c'était vraiment la partie formation qu'il n'était pas aisé d'être formé. Hein, qu'il fallait des fois quand ils sont en formation, c'est super toute la journée, on voit plein de trucs, mais quand on revient le lendemain dans sa classe, ben il faut mettre en pratique rapidement, ou alors si on se dit on va le mettre et on fait ça dans un mois, ben on a tout oublié, on n'a plus envie, on n'y va plus.
Hein. Alors ça, c'est une question que j'ai en ce moment avec mes collègues, moi, justement, parce que en fait, à chaque fois qu'il y a un truc un peu technologique, on est deux sur une équipe de 8, tu vois, à s'en occuper. Et, et c'est vraiment le réflexe de mes collègues, mais là, ils commencent à se rendre compte, c'est de dire, ouais, il faut qu'on soit formé à ça. Mais j'ai l'impression, donc mon autre collègue et moi qui testons un peu tous ces trucs-là, il y a un peu ce côté bidouilleur, tu sais, j'aime bien aller fouiller un peu dans les options, tenter des trucs et tout ça. Et c'est un réflexe qui est pas naturel. Alors bon, tout chez les profs, je parle des profs parce que je les connais, mais chez les gens en général, tu sais, ils ont toujours peur un peu de farfouiller, d'aller rechercher des trucs et tout ça. Et je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'il faut tout le temps une formation pour utiliser un outil. Mais vu la démultiplication des outils, on n'a pas trop intérêt à attendre une formation pour se lancer dans un truc parce qu'on n'est pas sorti, quoi.
Non, il vaudrait mieux rechercher, acquérir des attitudes par rapport à tous les outils, comme tu dis, bidouiller, chercher, savoir comment on fait un enregistrement, quel que soit l'outil. Je pense qu'à notre époque, c'est pas non plus très très compliqué parfois. Voilà.
Ouais, c'est vrai que la formation, c'est quelque chose à réfléchir. En tout cas, actuellement, comme elle est, donc là, c'était en Amérique du Nord, mais je pense que chez nous, c'est un peu le même principe. Hein, donc, c'est vrai que j'ai plein de collègues qui reviennent de formation, qui disent, ouais, super ce que j'ai vu.
Mais en fait,
voilà, ils s'y mettent pas, ou ils ont peur que l'élève ils connaisse mieux qu'eux, des fois, ou j'ai ce, tu vois, voilà.
Bon, est-ce qu'il, tu vois, il manque juste un SAV à la formation, tu vois, style, bon, on vous a appris ça, mais on vient vous voir après parce qu'on sait.
Je pense que c'est quelque chose qu'on est en train d'un petit peu, dans certains pays, le font aussi, un avant la formation et un après la formation, tu vois, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de nous changer un petit peu.
Parce que comme tu l'as dit, à partir du moment où on va rentrer dans sa classe, etc., il y a toujours de nouveaux problèmes auxquels on n'a pas songé qui arrivent. Et on a un pare-feu qui bloque YouTube et on a une connexion qui est trop faible, etc. Parfois, ça coupe les envies.
Alors, ce qui ressortait aussi de ces profs, c'est l'administration. Il disait que les directions d'établissement qui ont fait des choix inopérants et qui ensuite imposent à leurs enseignants de les utiliser quand même. Ça arrive, hein. On a acheté du matériel, on veut pas qu'il dorme, il faut l'utiliser. On a acheté une licence pour tel logiciel, même si c'est une grosse bouse, il faut l'utiliser quand même.
On a demandé à un gestionnaire de faire une liste de sites interdits et on s'aperçoit que YouTube est dedans.
Oui, c'est vrai.
Donc du coup,
tout à fait. Ce qui revient après, c'est le manque de matériel. Bon, ça, ok, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Voilà. Alors les programmes. Oui, il dit que les programmes sont tellement démentiels et répétitifs que c'est difficile. C'est un excellent argument pour qui veut justifier ses pratiques pédagogiques actuelles. Il dit que c'est tellement compliqué les programmes. Oh là là, intégrer le numérique.
Alors là.
On l'a quitté. Ah, il nous a quitté encore. Ensuite, la peur. Oui.
Je me sentais chaud sur les programmes. Hein.
Ouais. La peur, c'était le dernier. C'est une des choses aussi qui revenait. Hein, c'est un des principaux obstacles. Il disait changer de travail, changer d'établissement, de niveau enseigné, de ville, de vie, etc. Alors, changer de façon d'enseigner, ce n'est pas facile. Voilà, là, on est vraiment dans le cœur, nous, un peu en France, là-dessus, sur le changement d'enseigner. Hein. Donc, je vois que c'est un peu partout. Partout comme ça. Et ensuite, il est arrivé la paresse. Hein, il y en a quelques-uns qui ont répondu la paresse, la volonté, hein, d'accord, de s'y mettre. Hein. Voilà, je trouvais
ça. L'ennui aussi. Des fois, enfin, tu vois, nous, ça nous amuse de tester un outil quand on le voit et tout ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Et, hein, qui se dit, mais pourquoi je vais tester un outil si je suis même pas sûr de l'utiliser, tu vois? Donc,
Ouais, alors là,
des
je suis
fois,
désolé,
pas
désolé les
forcément la
gars,
paresse.
j'ai été un peu coupé tout à l'heure.
Oui, on a vu que
Donc,
tu étais.
voilà, juste pour vous dire
Vas-y.
un truc, j'étais en train de vous parler des nouveaux programmes qui arrivent. Et au primaire, c'est pas compliqué, le numérique prend sa place de façon généralisée dans tous les enseignements. Donc, l'idée de les programmes sont trop chargés, les programmes peuvent plus être une réponse, un problème, ils sont une intime, ils demandent à ce qu'on utilise les nouvelles technologies.
Qui ne sont plus nouvelles. Voilà.
Voilà. Ben, c'est
Voilà.
vrai.
Mais oui, c'est un défaut
Donc,
qu'on a souvent, on nous parlait de nouvelles
ils demandent à
technologies.
utiliser le numérique.
Voilà.
Voilà.
Bon, voilà, je trouvais cet article intéressant. Je les mettrai en tout cas dans les notes de l'émission. Et je lance à Jackie, je cherchais le genre, Jackie le peintre, hein, je relance s'il veut bien nous contacter. Moi, je serais super intéressé dans le cas de discuter avec lui. Voilà.
Ah oui, moi rien que pour sa classe, on pourrait y passer des heures.
Mais franchement, il fournit son blog sans arrêt nouveaux articles. C'est vraiment, vraiment très. Vraiment, je me régale le lire en tout cas.
Tant
Voilà.
mieux.
Actualité. Allez, j'ai trop parlé. Qui c'est qui veut passer sur l'actualité?
Bon, j'en profite pendant que ma connexion est encore vaillante.
Vas-y.
Je viens de finir le hors-série des cahiers pédagogiques sur enseigner les arts avec le numérique. Alors, le précédent hors-série, c'était enseigner avec le numérique. C'était très très bien. Il y avait des tas de projets de collègues qui étaient intéressants. Et
Je
bon,
crois
alors celui-là m'a. Pardon?
que tu nous en avais parlé d'ailleurs. Oui.
Voilà. Alors celui-là, enseigner les arts avec le numérique, bon, m'a un peu moins emballé. Il y a beaucoup de questions d'éducation musicale, mais il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Ça va faire plaisir à Jeff, il y a du biode.
Ah.
Voilà, ou du avant, comme on dit en français apparemment.
Oui. Qui veut
Voilà.
dire, tu t'en souviens?
Amener votre appareil numérique.
Bien, bravo.
J'ai révisé. Il y a pas mal de choses comme ça, et en fait, c'est plus le sentiment général que je retiendrai, c'est qu'on voit réellement une modification de ce que l'on peut faire. Alors, une éducation musicale, c'est flagrant. On voit vraiment l'évolution de ce que les outils permettent. Hein. On se demande souvent qu'est-ce que ça change un outil numérique. Et ben, quand on lit ce numéro-là, on voit vraiment des gamins qui ont laissé tomber la flûte à bec qui n'existe plus et voilà, qui utilisent réellement les technologies qui ne sont plus nouvelles, mais qui utilisent le numérique.
Ouais, je voyais des choses sur l'architecture, sur la modélisation 3D aussi, des choses.
Exactement, exactement.
Mais c'est fatal hein, sur la musique. Je veux dire, même si on regarde nous au niveau du podcast, il y a 10 ans, non, peut-être 15 ans, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on fait là maintenant. Toutes les technologies pour la musique et tout ça se sont quand même largement démocratisées, que ce soit avec les tablettes ou tout simplement avec des outils assez simples quoi, à utiliser. Hein, donc,
Tout cas, on retrouve des projets de gens qu'on connaît un petit peu, hein, quand on suit sur Twitter, tu vois. Je vois Logan Vince qu'on avait un petit peu parlé sur toute la musique. Ouais. Intéressant, j'irai jeter un coup. Ah ben, il y a Nicolas Olivier qu'on avait invité, Nico Guitare aussi qui était dedans.
Oui.
D'accord. Très bien.
Voilà.
Seb?
Oui, deux concours. Un concours FLE de. Alors, c'est pas. C'est lancé. C'est Adrien Payet. Donc, c'est un formateur, ancien acteur, prof de FLE, auteur de manuels de FLE aussi, qui lance son site, FLE Adrien Payet. Vous aurez tout dans les notes de l'émission. Et qui lance donc un concours de. Donc, sa spécialité, c'est le théâtre, en français langue étrangère. Il lance un concours pour les profs. Tout ce qu'il faut faire, c'est se mimer, alors choisir une expression dans une liste, et puis se mimer, enfin mimer l'expression et envoyer soit la photo, soit la vidéo. Et vous pouvez gagner plein de trucs, notamment, alors le premier prix, c'est quand même un séjour de formation dans le Mercantour, de formation en théâtre FLE. Et Adrien Payet, moi j'ai suivi deux de ses formations. ce sont vraiment des formations de qualité, vraiment un type sympa. Et en plus, je fais partie du jury, mais je suis incorruptible. mais c'est une belle initiative et je vous encourage donc à participer à ce concours. Et un deuxième concours qui lui est plus pour les élèves. Alors là aussi, c'est à l'occasion de la semaine de la francophonie. On a toujours le projet 10 mois 10 mots. Et là, il y a un concours de twitterature qui se lance. Donc c'est l'édition 2016. Donc un concours de littérature sur Twitter. J'ai trouvé l'idée vraiment super originale. Et en fonction, donc là aussi c'est plutôt en fleu. Le thème c'est à saveur locale. Et puis on peut faire participer donc des élèves allant de 5 à 18 ans. D'ailleurs, non, c'est pas seulement FLE. Hein. Je pense que les Français langue maternelle peuvent s'inscrire aussi. Et donc, les épreuves, donc à 5 ou 7 ans, c'est choisir un mot dans la liste de proposée par 10 mois 10 mots, hein, et puis composer une phrase avec ce mot. Voilà. Bon, ça c'est pour les plus jeunes. Mais après, quand on arrive aux 15-18 ans, il faut produire un tweet d'exactement 140 caractères. En incluant les balises et les espaces. Et dans ce tweet, il faudra choisir deux mots dans la liste de 10 mois 10 mots et puis faire une figure de style comme une allitération ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai trouvé le truc sympa. Et donc les thèmes, donc c'est le thème général, c'est à saveur locale, mais on s'est décliné, donc il y a une morale à saveur locale, une légende à saveur locale, un dicton local, etc. Je trouvais en tout cas l'initiative de faire un concours de littérature sur Twitter très sympa. Un truc très très court, mais en même temps, du coup, très travaillé. C'est une belle initiative. Là, je sais pas ce qu'on peut gagner, mais rien que pour participer, ça me semblait rigolo, quoi.
Intéressant. Il y a quand même pas mal d'initiatives là-dessus, hein, sur Twitter. Il y a plein d'idées, plein de...
L'épisode 80 de Lifetime, il te parle aussi des tweetés.
D'accord, des tweetés, par exemple. Ouais. D'accord, j'avais essayé aussi les tweets défis. J'avais essayé de participer avec mes élèves à un moment. Mais... aussi, il y a des petits défis par jour. C'était rigolo. Ok, très bien. Moi, c'est très court, la partie actualité. C'est l'actualité que j'avais parlé d'Educatis, le grand salon de l'éducation où je devais aller au mois de
novembre.
Ouais, puis avec les événements qu'il y a eu à Paris, ça avait été donc annulé. Donc là, c'est reporté. J'y serai en tout cas le 10 mars sur Educatis. Et j'essaierai de faire, comme j'avais prédit de faire un petit retour sur Educatis. J'y suis jamais allé. C'est la première année que j'y vais. Et faire un petit retour, il reste une journée le jeudi et je pense que je vais courir parce que j'ai pas mal de choses à voir. Voilà.
Ouais, et puis une petite pensée pour Guillaume parce que je pense qu'ils sont en train de préparer la prochaine édition de Cyberlang et j'ai vu les appels à communication tourner, donc il nous en parlera, mais bon, comme ça on sait qu'il faut aller suivre l'actualité de Cyberlang.
Voilà, ça lui fera plaisir.
Voilà,
ça lui fera plaisir. Bon, on a fini pour notre partie sérieuse. Non, pas sérieuse, mais je sais pas. Pour parler d'autres choses, vous avez pas mal de choses. Pas de choses.
Seb, je te laisse la main, comme ça, tant que t'es connecté.
D'accord, ouais, tu as raison. moi, je vais vous parler du dernier album que j'ai acheté de Riyad Satouf. Alors, Riyad Satouf est un auteur de bande dessinée qui est bien connu pour une bande dessinée en ce moment, c'est L'Arabe du Futur, tome 1 et 2, où il raconte de manière très sympathique son enfance. Là, les cahiers d'Esther, on retrouve son style, sauf qu'il nous raconte la vie, entre guillemets, d'une petite de CM1. Qui s'appelle Esther, voilà, hein, ses relations avec son frère, ses relations avec ses parents, mais surtout sa vie à l'école. Très sympa. Bon, moi, un peu désespérant, parce que cet enfant, son but dans la vie, c'est d'avoir un iPhone 6. Son quotidien et ses camarades de classe me donnent un peu envie de me jeter par la fenêtre. Il y a une, c'est sous forme de strip de, d'une page, et il y a un strip avec un pauvre gamin qui est un petit peu la, la tête, le bouc émissaire de toute, la, toute l'école, j'ai envie de dire, et qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il a vu un pigeon se faire écraser, et tous les autres gamins se moquent de lui, dont même l'héroïne. Bon, purée, j'ai passé ça. Alors, c'est super à lire parce qu'il y a le style, il y a l'humour de Satouf, mais alors. Vous sortez de là, je sais pas, c'est entre le rire et le oh mon Dieu, c'est horrible. Mais c'est à
ouais,
lire.
Ouais, ouais, ça me donne. Il était pas au festival de, d'Angoulême. Ah mince, oui, il est parti.
Tu as posé, bon. Posé une colle, donc il est parti. Pour ça. Allez. De répondre.
Ben, moi, je vais prendre le relais alors, et je vais vous parler aussi de BD et de alors. Le truc, c'est ça, c'est que j'avais envie de lire des. Ah, revoilà Seb. Ouais, je disais, ouais, il était au festival d'Angoulême, non ?
Oui.
Ouais.
Oui. Ouais. T'as pas mis le lien pour le retrouver, au fait ?
J'ai pas mis un lien sur,
non.
Sur les cahiers.
Ah, trop facilement ou non ?
Oui, 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 ça se trouve très, très facilement. Tout ce qui est de Riyad Satouf, maintenant, se trouve très facilement. Je te mettrai ça après.
Ça marche.
Voilà. Et donc, bref, moi je voulais vous parler de Civil War. Alors en fait, quand je prends l'avion, j'aime bien regarder des films Marvel. Et puis je me dis tiens, quand même, je vais essayer de lire des comics. Et je m'étais jamais tellement intéressé aux comics de super héros. Enfin, si tu vois, quand j'étais petit, des Strange, des trucs, les origines et tout ça. Et je m'étais dit bah tiens, je vais peut-être me prendre l'abonnement Marvel Unlimited. Et puis au moment de regarder un petit peu leur catalogue et tout, je me suis aperçu que c'était assez c'était un dédale de BD, tu savais pas trop par où prendre, pas trop comment commencer. Donc Twitter est mon ami. Je suis allé sur Twitter, j'ai lancé un appel au secours sur comment faire pour s'initier un peu à l'univers Marvel, parce qu'il y a Marvel Universe, il y a des tas de trucs avec des dimensions parallèles et tout, c'est assez compliqué. Et là, j'ai Laurent Doucet. Alors, Laurent Doucet, c'est un blogueur et c'est aussi un podcasteur qui est dans le Bro Clash avec son frère et qui vraiment s'y connaît très bien en bande dessinée, il est graphiste, hein, en comics et aussi en science-fiction. Donc, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec lui sur Twitter pour avoir des petits conseils. Et donc, il m'a donné quelques conseils de lecture. Donc je vous ferai des retours, et il m'a dit bah écoute, Civil War tu peux prendre, parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir un cycle complet et d'avoir une histoire complète et pas de me dire bon ça y est j'ai fini le premier volume, où est-ce que je vais trouver la suite et tout ça. Et donc il m'a conseillé le Civil War. Donc Civil War c'est une collection de Marvel qui en fait se passe au moment où il y a une loi qui oblige les gens qui ont des super-pouvoirs à évoluer démasqués. Et il m'a dit, écoute, prends le Civil War de Spider-Man, donc l'homme araignée, et tu verras, c'est vraiment pas mal. Donc en fait, Civil War, alors là aussi, rien que pour ça, c'est compliqué, parce que j'ai regardé au départ un petit peu sur Wikipédia, ils disent, oui, Civil War, c'est 7 volumes, où il y a plein de personnages qui se croisent et tout, donc je dis, ouais, super. Et quand on regarde la liste des 7 volumes, il y a des numéros qui viennent de partout, qui s'additionnent. Bref, c'est assez compliqué.
Bienvenue chez Marvel.
Ah ouais, non, c'est horrible, quoi. Pour s'initier, c'est horrible, quoi. Et donc, ils font des reboots, hein, réguliers, mais quand même. Et j'ai pris le Civil War. Donc, c'est un truc, je l'ai pris. Alors, je voulais expérimenter la lecture sur mon téléphone. Donc, je le lis sur mon téléphone. Wow. C'est pas l'idéal.
Non. T'as un grand téléphone ?
Ouais, j'ai un Nexus 6P.
Ah oui, quand même. Ouais.
Donc c'est un. Ouais, okay. Oui, c'est un grand téléphone. Mmh. Et donc je suis allé sur le Play Livre et puis donc le store de livres de Google, et j'ai acheté donc ce Civil War donc Spider-Man qui fait 133 pages. Quand même. Et je suis en train de le lire, et c'est vrai que je suis assez agréablement surpris. Alors la lecture sur téléphone, c'est pas ce que je préfère. Je sais pas si je. Donc, du coup, ça m'aide hein, pour savoir si je prends le Marvel Unlimited ou pas. Je pense qu'avec une tablette, c'est mieux. Parce que là, en fait, sur le téléphone, quand tu as des strips, donc des bandes, ils recommandent de mettre le téléphone en mode paysage. Et là, la lecture est assez simple. Mais tu vois, dans les comics américains, tu as souvent un grand dessin derrière, des cases un peu dans tous les sens. Et donc, c'est pas souvent que tu as des pages comme ça. Et là, dans ce cas-là, il faut revenir en mode portrait pour avoir tout ça. Mais ça m'a permis de découvrir des options sur le Play Livre, notamment bah, le fait de pouvoir annoter des choses. Alors, j'annote pas mes BD Marvel, mais
tu sais que tu peux. Tu nous rassures.
Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu notes?
Mais c'est pas mal parce que tu peux importer un peu n'importe quel PDF si tu veux dans le Google Play Livre. Tu peux apporter des EPUB aussi et tout ça. Et quand tu dis que tu veux annoter, surligner et tout ça, il te crée un dossier sur Google Drive et tu retrouves toutes tes annotations à cet endroit-là. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir ça et de découvrir aussi cette fonction de lecture. Alors je ne sais pas à partir de quelle version de Google elle existe, mais le soir, il te le met plutôt dans les rouges. Alors pour la BD, ça marche pas du tout, mais si tu lis un roman en format EPUB ou PDF, et ben tu te retrouves pas avec cette lumière bleue, mais avec cette lumière rouge qui t'aidera à faire un gros dodo.
C'est le gros truc à la mode. Ouais, j'ai même mis une appli moi sur mon téléphone justement pour ça, tu vois.
Ouais, bah tu vois, j'ai vu que donc bah le Play Livre le fait tout seul.
Automatiquement. D'accord. Je sais pas si c'est.
Si tu actives l'option.
Ouais. D'accord, eh ben, très bien.
Désactivé très vite parce que hier soir en prenant le train il était 8h, tu veux lire ta BD, elle est rouge, c'est pas très sympa quoi.
Bon, et le comics alors oui ou non? T'es rentré dedans?
Ouais, ou... le comics, ouais. Non, ouais, très bien. Très bien parce que bon, au départ en plus, puis je vais le prononcer à la française, Spider-Man, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est un peu l'ado et tout ça. Moi j'étais plus chez Marvel, j'étais plus intéressé par les X-Men et par Wolverine. J'avais lu d'ailleurs quelques gros volumes qu'un prof qui déménageait m'avait filé de Marvel Universe. Attends, c'était quoi? Ou Unlimited? Non, je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, c'était sur les X-Men et ça faisait vraiment une histoire complète avec la formation et tout. Et c'était sympa d'avoir des gros volumes et d'une belle édition en plus. Donc c'était assez cool. Donc j'étais plus ça que Spider-Man, mais comme il me l'a conseillé. Et donc après, sur ma liste de lecture, ce sera ce cycle sur le Infinity Gauntlet, donc le
gant de l'infini.
Le gant de l'infini, voilà. Ce sera ce que je veux lire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir un cycle complet, mais je vous assure que si vous voulez vous lancer dans Marvel, trouver un cycle complet, une histoire complète, c'est super dur parce que ça part dans tous les sens.
Alors, si tu veux vraiment commencer avec du Marvel de façon simple, et un truc que la plupart des gens connaissent, ça s'appelle... les The Avengers...
Je peux pas vous aider, moi.
Ultimate Avengers.
C'était Ultimate, ouais, que ouais. J'avais commencé. Tu vois, ouais.
Non, en fait, c'est parce que Ultimate, c'est quand Marvel a voulu faire un reboot pour fidéliser de nouveaux lecteurs. Et en fait, quand on lit Ultimate Avengers, c'est une remise à niveau avec c'est Millar qui est au dessin, au scénario, je crois. Donc c'est un truc un peu plus violent que l'original. Et en fait, c'est ça qui a inspiré. Alors je dis bien inspiré parce qu'on en est quand même loin, les films qu'on a maintenant sur les grands écrans. Là aussi, il y a une pléthore de numéros, mais les 2-3 premiers recueils suffisent. Bon, même les 2 premiers recueils suffisent. Ça fait 2 belles histoires, basta.
Et en fait, moi, j'avais voulu lire les BD parce que justement, j'avais accroché à certains films de Marvel qui me plaisaient, notamment Return of the Future Past des X-Men, qui était vraiment un super épisode. Et puis quelques séries qui me plaisaient, notamment Daredevil, qui était sympa, Jessica Jones récemment.
Jessica Jones, qui a toute la série Alias qui est bien. C'est son histoire, en fait.
D'accord.
La série en BD, hein, rien à voir avec la série télé, pardon.
Ouais. Voilà, okay. C'était mon coup de cœur. Je découvre. Et
moi, c'est vrai que c'est... Je remercie
Arnaud. Jamais...
Bon, mais très bien. C'est vrai que j'ai jamais essayé, moi, les comics, mais bon. Faudrait, mais je suis pas fan déjà.
C'est super. Dans les comics, t'as encore plein.
Tous les films et tout, j'ai jamais trop accroché, donc bon.
Non, mais tu as à boire et à manger, après ça dépend ce que tu veux.
Ouais, c'est vrai. Bon, j'avais pas prévu, mais j'ai rajouté une petite chose que je suis en train de regarder en ce moment, qui est une petite série que j'ai découvert, qui s'appelle The Expanse. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais donc c'est une série de science-fiction qui est assez intéressante parce que ça reste dans notre système solaire un petit peu, ça se passe 200 ans après dans le futur où on a la Terre, Mars, et on a une ceinture d'astéroïdes au bord de Mars, qu'ils appellent ça Cérès, où on a Mars qui est vraiment la puissante. L'homme est arrivé là-bas, l'homme Mars est de plus en plus puissant. On a d'un côté la Terre qui exploite cette ceinture d'astéroïdes, qui est vraiment, ouais, c'est vraiment de la surexploitation de ceinture d'astéroïdes sur le travail. Et on a une histoire de disparition de jeune femme avec un détective au milieu, et on va se rendre compte que c'est une grosse conspiration qui menace en fait un petit peu l'équilibre entre Mars et la Terre et Cérès. C'est en 10 épisodes, c'est bien foutu, les effets spéciaux se marchent en tout cas.
C'est
c'est
sur Netflix?
Non, c'est sur Sci-Fi. Sur Sci-Fi, ça se trouve.
Ouais, bah ouais. Du coup, moi j'ai Sci-Fi,
voilà.
mais avec des coups de pompe, quoi. Ouais.
Ouais. Et ça, franchement, c'est bien prenant. Il y a une deuxième saison qui est prévue derrière. Ça se regarde bien. C'est plein de personnages au début. On se demande vraiment, on s'en doute bien qu'au départ, que ça va arriver, qu'ils vont tous se croiser. Ça arrive, hein. Et c'est vraiment bien foutu parce que c'est quelque chose, je pense, qui est plausible. Une histoire qui tient la route, quoi. Voilà. Avoir dit expense.
Cool, ben moi je note. Ça, je suis en train de le faire d'ailleurs, je suis en train de noter. Ça m'intéresse.
Voilà, c'est tiré d'un bouquin que je connaissais pas. Je sais plus. Les auteurs Daniel Abraham, voilà, et Ty Frank, qui étaient des, qui en tout cas des, donc les romans, c'est de James S. A. Corey. Je connaissais pas moi. Et
Non, moi non plus.
les auteurs en tout cas derrière, c'était des assistants sur Game of Thrones. Voilà, bon, je sais pas si c'est un signe de qualité, mais en tout cas voilà.
Cette série-là, non plus, je ne connais pas.
C'est vrai. Le
Non,
32, le 32
ça me dit
fer en
rien.
français, peut-être.
Non, ça me dit rien. Pourquoi pas?
Donc voilà. Voilà, bon, on a
Bah
fini, hein.
cool.
Ouais.
Ouais, on a fini.
On a fini, on a 1 heure, bah, très bien. Si vous voulez nous retrouver, eh ben, c'est toujours sur eTeachers.fr, sur iTunes, sur les réseaux sociaux, Facebook, notre communauté Google+. N'oubliez pas toujours le petit sondage. On a un petit abonnement par mail aussi. Vous verrez, j'ai fait une petite. Quand vous allez sur le site directement, vous pouvez vous abonner très facilement par mail pour recevoir tous les épisodes. N'hésitez pas à partager. Voilà, et si vous voulez nous retrouver plus personnellement, ben moi c'est le plus simple, c'est Twitter, c'est @Jeff8342. Sébastien, où on peut te retrouver?
Moi, c'est sur Twitter avec @stuteur, STUTEUR, et comme ça je vous relayerai les articles de mon blog.
Très bien.
Ouais.
Seb.
Moi, ce sera sur Twitter aussi avec @TheTrouSeb et sur le site Agito, AGI.to, où y a un autre podcast aussi, hein, des Agités. On vient de sortir un podcast détente et un podcast consacré à l'enseignement du français avec les jeux vidéo.
Ah, d'accord, je l'ai pas écouté. J'ai écouté le détente, très sympa. Voilà. Très très sympa.
Bah, écoute, sur les jeux vidéo, c'est cool aussi.
Bon, j'irai voir. J'irai voir. Il est pas arrivé dans mon flux celui-là, non? Non? Si?
Normalement, si, si.
Si,
Ouais.
si.
C'est même plus? D'accord. Bon, très bien.
Regarde dans
Merci.
ton flux.
Bon. Dans mon flux, hein, tu veux dire.
Droite.
Bon, allez. Bonne soirée. Merci à vous.
Bonne soirée.
À une
Ouais,
prochaine.
merci, bonne soirée.